Flux4 Mix.
Mix.
Flux4, de retour pour le dernier jour au festival Entrevue de Belfort pour le 30e anniversaire, enfin pour l'anniversaire, pour la 30e édition du festival. Bonjour à tous. Alors voilà, pour nous c'est déjà la dernière, le festival se termine demain, mais ce soir nous connaîtrons donc les heureux primés de la compétition internationale. Et pour cette dernière émission Flux4, il y a donc toujours Olivier Legras à la réalisation, Florence Andoka au micro, bonjour Florence.
Bonjour.
Fabien Velasquez, bonjour Fabien.
Bonjour.
Et nous recevons ce matin Mathias Meyer, réalisateur de Yo. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors, Mathias Meyer, vous êtes un réalisateur franco-mexicain, vous êtes né en France, vous avez étudié le cinéma à Paris, puis la photographie au Mexique. Depuis 2005, vous avez réalisé 4 courts au moyen-métrage, et Yo est donc votre 3e long-métrage que vous présentez à Entrevue là, dans le cadre de la compétition internationale. Et ce 3e long-métrage est une adaptation d'une nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio. Dans ce film qui se passe au Mexique, on suit l'itinéraire de Yo. Alors Yo a-t-il 15 ans, comme il le dit lui-même, 20 ou 30, à vrai dire, c'est difficile à dire tant son physique imposant contraste avec son caractère. Yo est un homme simple, un enfant dont seul le corps aurait grandi et dont l'esprit demeure centré, lui, sur des occupations de petit garçon. Mais Yo n'est pas qu'un ogre un peu saplé et il semble doué d'étranges pouvoirs. Ses rêves prédiraient l'avenir et lui permettraient de guérir. C'est l'émancipation de ce garçon qui vit avec sa mère dans un restaurant situé au bord d'une autoroute, au milieu de nulle part, que le film raconte. Forcé par le nouveau compagnon de sa mère à travailler sur un chantier, Yo va découvrir à ses propres dépens le monde des adultes et découvrir son innocence. Alors, comment est-ce que vous avez découvert cette nouvelle de Leclésio, Mathias Meyer?
C'est ma mère qui m'a offert le bouquin. Il fait partie d'un recueil qui s'appelle L'histoire du pied et autres fantaisies. Leclésio est un auteur que l'on suit en famille. C'est un ami de famille aussi. On l'a connu, mon père l'a connu dans les années 70 au Mexique. Leclésio, avant le Mexique, était en Thaïlande. Il a écrit un article très critique contre le gouvernement, contre la pédophilie. Il a été expulsé de Thaïlande et donc il a débarqué au Mexique. Et mon père, à la même époque, était aussi au Mexique. Lui, il est français d'origine. Mais il faisait la recherche pour sa thèse de doctorat en histoire au Mexique sur le mouvement armé des Cristeros. C'est des révolutionnaires qui ont pris les armes pour défendre l'église, en fait, dans les années, fin des années 20, début des années 30, après la révolution. Donc là, ils sont connus, ils sont baladés ensemble au Mexique, etc. Et à un moment, on a même vécu dans la même maison pendant quelques mois. Moi, j'étais un bébé encore. Et donc, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai adoré, mais en plus, il y avait la possibilité d'obtenir les droits d'adaptation. C'est toujours un peu compliqué à avoir les droits. Donc je savais que Jean-Marie allait m'aider pour avoir les droits. Et aussi, le problème, c'est qu'on ne peut pas se mettre à écrire un scénario sans avoir les droits. Et souvent, ça coûte cher, de l'ordre de 20 000 euros à peu près. Donc lui, il m'a cédé gracieusement les droits de la nouvelle. Et j'ai pu commencer à travailler de suite. Parce qu'après, il faut attendre et parfois, il faut profiter des moments d'urgence créative. Et c'est ce que j'ai fait.
Mais qu'est-ce qui, dans ce livre, vous a donné envie de le transposer à l'écran?
Je ne sais pas exactement, mais d'abord, j'étais très attiré par les images que la nouvelle décrivait. Par rapport aux autres écrits de Leclésio, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions qui sont décrites. Et ça, c'est important toujours pour un scénario, parce qu'un scénario est fait d'actions. C'est pas, il n'y a pas de réflexion, c'est vraiment très, très physique. S'il y a un personnage qui fait quelque chose, ça marche pour le cinéma. Sinon, si c'est juste un personnage qui réfléchit ou qui parle, ça ne va pas marcher. Donc d'un côté, il y avait ça, il y avait les images de, je sais pas, de Yo qui tue, Yo c'est le personnage principal, qui tue des poulets avec un aspirateur, par exemple. Dans son esprit, à lui, c'était pour faire souffrir moins les poulets. Donc, il leur enlève l'air. Après, il essaie de les ressusciter en leur faisant du bouche à bec. Et il pense qu'il peut le faire. Donc, il a une espèce de croyance, un peu comme les enfants qui ont une imagination. Et parfois, par exemple, ils peuvent croire que s'ils mettent une cape de Superman, ils peuvent voler. Non, c'est un peu l'esprit de Yo aussi. Donc, il y avait les images qu'il décrivait, que j'aimais beaucoup. Ensuite, le personnage était vraiment fascinant aussi, ce côté simple, ce côté enfantin. Et puis, moi j'ai un neveu qui souffre aussi d'un retard mental. Donc je me sentais assez proche aussi. Et ce n'était pas juste le retard mental, mais c'est le moment où ces personnes-là commencent à avoir des désirs sexuels aussi. Donc mon neveu avait 16 ans, il habite ici en France, à Perpignan, et je le vois une fois par an ou tous les deux ans quand moi je viens en France l'été. Et à un moment, quand je suis venu, j'ai vu comment il commençait à avoir ce désir-là, par exemple avec la femme de mon frère ou avec ma femme. Parfois, il aimait bien être très proche d'elle, ou parfois il les prenait dans ses bras. Et de façon assez un peu innocente, cachée, il touchait les seins, par exemple. Et là, il se faisait tout de suite gronder, évidemment. Et puis, il comprenait pas trop. Mais il comprend, mais il faisait un peu l'innocent. Tu sais, il se cachait derrière son propre retard, mais donc duquel il est conscient. Et donc j'ai vu le rapport direct entre ce comportement-là et le comportement de Yo aussi dans la nouvelle, parce que c'est aussi une histoire de découverte sexuelle.
Oui, mais c'est vrai que Yo, comme ça, est un personnage très double. Et tout comme il y a l'opposition entre sa simplicité d'esprit et son physique d'ogre, il y a aussi comme ça ce rapport à l'enfance, et où en même temps on sent que c'est quelqu'un, de toute façon on le voit se masturber, on voit qu'il est attiré par l'adolescente qui est la fille de la personne qui travaille avec sa mère. Il y a une sorte de malaise comme ça qui s'installe, un rapport un peu pervers.
Il regarde des films, c'est pas des films porno, mais c'est un peu des filles un peu à poil, à la télé. Il fait des massages à sa mère, et là on sent aussi une espèce d'attraction physique. Oui, donc il y a ce côté.
Et alors, comment avez-vous trouvé justement ce comédien qui interprète Yo?
J'ai travaillé avec des amis qui ont fait le casting, et depuis le début, je savais que je voulais travailler avec des acteurs non professionnels.
Pourquoi?
C'est une espèce de continuité dans ma démarche jusqu'ici. Le film que j'ai fait avant est justement sur le thème de la thèse d'histoire de mon père. Ça s'appelle Los Últimos Cristeros, les derniers Cristeros. Et pour ce film-là, par exemple, j'envisageais pas que des acteurs professionnels puissent jouer. C'est des paysans qui sont révoltés. J'envisageais pas des acteurs professionnels mexicains qui allaient jouer le rôle de paysan. J'avais vu beaucoup de photos, de documents, et je voyais leurs traits, leur visage, et je ne trouvais pas ça chez des acteurs professionnels. Donc je suis allé chercher des vrais paysans, des vrais descendants des Cristeros, en fait, qui auraient un lien de sang, même avec ces combattants-là, qui sachent qu'ils étaient en train de représenter l'histoire de leur famille, de leurs grands-parents, par exemple. Et pour Yo, j'ai continué un peu la même démarche. Et aussi, je voulais, comme vous dites, un peu un corps d'ogre. Dans les acteurs, souvent, on trouve des physiques un peu plus... Ils sont plus beaux.
Plus normés.
Oui. Et donc, c'est pas, je trouvais pas quelqu'un d'aussi spécial. Et peu à peu, je me suis rendu compte que les personnes que j'ai choisies pour jouer le rôle ont beaucoup de parallélisme avec la vie des personnages. dans leur biographie. Par exemple, Raoul qui joue Yo, quand il a voulu rentrer dans l'école primaire, il m'a raconté ça après, il avait du mal à prononcer le R. Et la maîtresse de l'école, la directrice, a dit à sa mère, votre fils est retardé mental, on ne peut pas l'accepter dans cette école. Mais il était complètement normal, c'était juste une faute de l'éducatrice. Et après, il a finalement rentré dans cette école, et il était le premier de la classe. Donc lui, il parle souvent de... Il pouvait vraiment se reconnaître avec le personnage. Et la maman de Yo, Elisabeth, qui passe à vraie mère, elle a une fille qui a 19 ans, qui a aussi un retard mental. Mais ça, je ne le savais pas. On dirait que c'est un peu instinctif ou inconscient, parce que je l'ai choisi, elle. Et c'est que après qu'elle m'a raconté ceci. Après, pour l'amant d'Elisabeth, c'est un oncle à moi. C'est le frère de ma mère. Souvent, je travaille aussi avec, je prends des gens de ma famille. Puis les autres personnages, les deux amis de Yo, travaillent dans la carrière. Je les ai pris là, ils jouent un peu leur même rôle en fait que dans la vie. Et puis il y a Mélodie Petite, la prostituée, puis Louisa, son amie travestie aussi, qu'on a trouvé dans des boîtes de nuit. Mélodie Petite, c'est une acteur pornographique. Voilà, donc ça donne un casting assez spécial. Quand ils étaient tous ensemble dans les scènes de discothèque, on a pris une photo de tout le groupe et ça faisait vraiment penser à du Buñuel. Des personnages vraiment, vraiment variés. Yo fait 2 mètres, puis Mélodie Petite fait 1,50 m. Le petit ami de la carrière aussi fait 1,50 m. J'ai choisi aussi de mettre en valeur la grandeur du personnage principal en choisissant des personnages qui étaient plus petits. Le toit aussi de la location du restaurant aussi est petit, donc on voit comme s'il était enfermé dans cet endroit aussi.
Fabien ?
Je voulais peut-être revenir justement sur cette scène du karaoké dans la discothèque, parce que comme vous l'avez dit, il y a vraiment un panel de personnages qui sont tous attachants, et voilà. Et donc comment cette scène peut définit-elle ou non une forme de maturité aussi chez Yo, parce que là il connaît un certain nombre d'expériences jusqu'à une ultime qui sera dramatique, mais notamment l'initiation sensuelle, parce qu'il y a un rapport assez sensuel qui traverse tout votre film. Donc voilà, comment peut-être au niveau du scénario, comment ça s'est composé
Je pense que le début de l'apprentissage de Yo commence justement par, comme vous l'avez dit, quand il est forcé de sortir de chez lui pour aller travailler dans la carrière. Donc finalement, l'amant, c'est un peu le méchant, mais c'est celui qui lui permet aussi de progresser. Comme si sa mère n'avait pas confiance en lui, qu'il pouvait... Et on se rend compte qu'il est complètement normal, en fait, dans la carrière aussi. Il y a le chef qui lui dit « Ah, j'aime beaucoup ton travail, je te propose d'aller travailler ailleurs, etc. Et » Et donc, il avait juste vraiment besoin de confiance. Et c'est là aussi qu'il se lie d'amitié par les deux ouvriers. Et c'est eux qui l'amènent au karaoké, qui en fait est une discothèque, mais j'ai gardé comme ça, même s'il n'y a pas de scène de karaoké non plus, mais c'est juste la discothèque. C'est les amis aussi qui le forcent un peu, parce que c'est eux qui paient la prostituée pour qu'il ait sa première relation sexuelle. C'est le premier moment, je pense, où le personnage, où on se moque pas de lui, disons que, où il est traité de façon très, très tendre par la prostituée. Elle lui dit, je vais être gentille avec toi, toi tu vas être gentille avec moi, parce qu'elle a un peu peur aussi de son corps énorme. Et il y avait une scène que j'ai coupée au montage, où en fait, il terminait de faire l'amour. Puis après, il y avait Jenny qui lui disait « Alors, t'as aimé ça ?» Et il lui disait « Oui, merci. » Et elle disait « Comment ça, merci ? Tu dois me payer ?» Et Yo qui était « Non, mais j'ai pas d'argent. » Il n'avait pas compris, en fait, qu'il avait dû payer. « Non, mais j'avais pas d'argent. » Et à ce moment-là, elle commence à l'agresser. Elle lui dit « Mais t'es un idiot. Paie-moi. » Elle commence à le frapper. Et là, on voit Yo qui va peut-être la frapper. On voit qu'il lève le poing. Et à ce moment-là, il y a ses deux amis qui rentrent dans la chambre et qui disent « Non, ça va, tiens, on te paye, laisse-le, il sait pas. » Et puis il part. Mais on l'a enlevé parce qu'on trouvait qu'encore une fois, ça faisait... Encore une fois, il réussit à faire quelque chose de bien et tout de suite, ça allait mal. Donc on a décidé de garder un peu le cap pour ce moment-là, pour que le spectateur ne soit pas encore une fois, Yo se retrouve dans la merde.
Lors de la rencontre hier soir, lors de la rencontre avec le public, vous disiez que, en regard de la nouvelle de l'Ecclésio sur laquelle vous vous êtes basé, vous aviez opté là pour un récit plus linéaire.
Oui.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça permettait, ce retravail ?
Je pense que surtout ça permettait une progression du personnage. Ça devient une espèce de film d'apprentissage. Au début, c'est un enfant et à la fin, c'est plus tellement un enfant. Il devient presque adulte. Donc je pense que ça permettait cette progression-là. Mais après, c'est des décisions qu'on prend un peu instinctivement pendant le processus de création du film.
Dans l'urgence ?
Oui. Ça, je sais pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... disons que j'ai résumé toutes les scènes avec une phrase, puis je les ai mis... bout à bout dans un papier, et après j'ai commencé à, dans l'ordre de la nouvelle, et après j'ai commencé à jouer avec la structure et j'ai trouvé cette structure linéaire, et ça permettait aussi, je pense, de garder une première partie où on sent que le personnage est prisonnier dans ce restaurant avec sa mère, une deuxième partie où on sent qu'il se libère et qu'il sort découvrir le monde. Dans la nouvelle de l'Ecclésio, il alterne entre la carrière et le restaurant. Et ça se passe aussi dans différentes saisons de l'année. Il y a l'hiver, il y a l'été. Donc parfois il dit l'été, c'était un des meilleurs étés que j'ai eu parce que je me promenais dans la rivière avec Hélène, etc. Puis après il parle de l'hiver. Et ici, il y a, comme au Mexique, on ne sent pas tellement les saisons. C'est juste une seule période de sa vie.
Florence ?
Est-ce que l'Ecclésio, est-ce que vous avez eu envie de le consulter aussi pendant ce travail d'adaptation ou pas du tout ?
Oui, au début j'avais des questions pour lui et j'ai pu le voir, je l'ai vu deux fois. Une fois à Paris et alors je voulais juste lui demander un peu c'était quoi pour lui le personnage ou de quoi traiter la nouvelle. Et il m'a dit c'est sur quelqu'un qui ne va jamais grandir. Chose qui n'est pas vraiment restée dans le film, parce que là, il grandit. Puis je lui ai demandé aussi pourquoi Yo ? Pourquoi ce nom-là ? En fait, lui, il partage ses années entre le Nouveau-Mexique, la France, la Corée et la Bretagne. Et donc il m'a dit qu'en coréen, Yo, ça veut dire « matelas ». Et il aimait la sonorité. Après, je me suis mis à penser pourquoi matelas. S'il l'a choisi, peut-être il n'avait pas une raison très particulière, mais inconsciemment, je pense qu'il y en avait une. Donc je me suis mis à interpréter pourquoi matelas. Et je me disais peut-être qu'il y a l'histoire des rêves, peut-être. C'est sur un matelas qu'on rêve. Puis il y a le corps de Yo aussi, peut-être lui, les gens qui se couchent sur lui, peut-être aussi qui sert un peu de punching bag aussi, je ne sais pas, aux gens. Non. Et ensuite il m'a dit ne respecte pas ma nouvelle, fais une création toi-même. Non. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup plus à lui raconter, à lui demander. Après, je l'ai vu au Mexique. Il est allé donner une conférence. Et je l'ai vu au Mexique. Il avait très envie de venir au tournage, mais finalement, il n'a pas eu le temps. Et Et au Mexique, je lui ai montré le casting que j'avais déjà commencé à faire. Et je lui ai montré les lieux de tournage. Et il était ravi de voir comment j'avais mexicanisé son histoire. Et les lieux de tournage, par exemple la rivière, la cascade, il disait c'est exactement à ce que j'avais pensé, comme je l'avais imaginé. Puis finalement, quand j'ai fini le film, je lui ai envoyé un DVD. Il a vu, il a dit qu'il avait beaucoup aimé, qu'il trouvait un sens poétique dans le film, puis qu'il trouvait le personnage de Hélène vraiment passionnant, ainsi que celui de Louisa.
Mais alors justement, ces lieux de tournage que vous évoquez, donc il y a la boîte de nuit, mais sinon il y a surtout le restaurant, qui est vraiment dans un no man's land, mais quelque part qui raconte bien aussi un peu la misère sociale dans laquelle vit Yo avec sa mère. Il y a la rivière, qui est plutôt justement l'espace du rêve, de l'enfance. Et il y a cette carrière qui est aussi un lieu où au final Yo s'épanouit, puisqu'apparemment il travaille très bien, on est content de son travail. Ce sont vraiment des espaces qui sont très beaux, mais et en même temps qui sont chargés de lumière et de poussière. Comment est-ce que vous les avez choisis, ces lieux?
En général, j'essaie de choisir des lieux qui sont attirants visuellement. Les trois films que j'ai fait avant, c'est se déroulaient toujours dans la nature, en fait. Dans la nature, c'est très facile de filmer parce qu'il y a toujours du mouvement, il y a toujours de la lumière, la beauté inhérente de la nature. Et là, j'avais une grosse partie du film qui se passait à l'intérieur du restaurant. Donc ça, déjà, ça changeait un peu de ce que j'avais fait jusqu'ici. Et je trouvais que un restaurant au bord de la route était déjà quelque chose de cliché, quelque chose qu'on avait déjà beaucoup vu au cinéma. Donc j'essayais de trouver quelque chose de vraiment spécial. Alors je me suis dit, je ne vais pas trouver une petite route où il n'y a aucune voiture qui passe. Mais je vais trouver l'autoroute où il y a le plus de voitures qui passent. Et c'est l'autoroute qui rentre vers la ville de Mexico par le nord. Et au Mexique, il faut savoir qu'il n'y a pas de train. Alors tout ce qui arrive dans la ville de Mexico arrive dans des poids lourds. Alors il n'y a pas 30 secondes où il n'y a pas une voiture qui passe. Et le restaurant était vraiment à 30 mètres de l'autoroute. Et il n'y avait aucun restaurant autour, c'était vraiment le seul qu'il y avait là. Et je voulais isoler la mère de Yo et Yo complètement. Et donc, en profondeur de champ, on a toujours les voitures qui passent, toujours. Ce qui était un problème pour le son, après, parce qu'on a dû, bien bloquer les fenêtres, etc. Toujours garder là, toujours les personnages sont en train de fermer la porte pour qu'il n'y ait pas le bruit qui rentre. Mais voilà, donc ça donnait une espèce de rythme visuel et de contraste entre... J'ai toujours été assez curieux quand je fais de la route, puis je vois des gens au bord de l'autoroute, ou des gens qui marchent au bord de l'autoroute, ou les gens du restaurant. Et moi, je fais juste passer, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui restent là, hein? C'était un peu ça aussi, le but aussi du film, d'explorer ces gens-là qui restent. Et donc il y a un contraste, je pense, qui est assez bon entre l'immobilité de Yo et tous ces gens qui passent et qui vont vers la ville. Et puis lui qui ne bouge pas, qui jusqu'ici, avant de sortir, reste toujours un enfant. Puis il est là tout seul, il ne va pas à l'école. Voilà, tout ça par un peu... disons qu'au Mexique, il y a un gros problème d'éducation, d'abord. L'éducation est vraiment minable. Et puis, il y a un problème de désintégration familiale aussi, avec beaucoup de pères de famille qui partent travailler aux États-Unis et qui laissent les enfants avec la mère ou avec les grands-parents, par exemple. Après, les enfants n'ont plus cette figure paternelle d'autorité. Et c'est beaucoup là qu'après les malfaiteurs, les narcotrafiquants vont aller piocher pour engager des travailleurs.
Ce sont ces problématiques-là aussi qui font que vos films traitent souvent du Mexique ou se passent souvent au Mexique?
Disons qu'en vivant au Mexique, on ne peut pas rester inerte à l'inégalité sociale. et aux problèmes sociaux. Ça fait partie du paysage, ça fait partie de la vie de tous les jours. Tous les jours, on est en contact avec l'extrême pauvreté. Et ce ne sont pas je pense pas que je fais des films sociaux, mais l'atmosphère, l'ambiance et quelques personnages font partie un peu de l'univers.
Et alors, vos trois longs-métrages sont des adaptations de livres.
Oui, le premier, qui s'appelle La Crampe, c'est une adaptation d'une nouvelle qui s'appelle La Crampe de Gao Xingjian, un écrivain chinois qui vit à Paris, qui a aussi le prix Nobel
de littérature.
Oui. Puis le deuxième, c'est Los Últimos Cristeros. Et ça, c'est une adaptation aussi d'Antonio Estrada, qui est un écrivain mexicain, qui écrit en fait sur la vie de son père, Florencio Estrada, qui était le colonel révolutionnaire. Puis c'est le dernier de L'Ecclésio. Et là, je suis en train d'écrire un scénario qui n'est pas une adaptation, pour changer un peu. D'un film à l'autre, souvent on essaye de faire l'opposé de ce qu'on avait fait. Los Últimos Cristeros, c'était un film très positif dans le sens de l'espoir, qui évoquait l'idéalisme chez l'homme. Et dans Yo, je pense que c'est plus doux, amer, un peu obscur peut-être. Donc on se balade comme ça d'un côté à l'autre.
Fabien.
Peut-être un mot aussi sur l'économie de votre film, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 pays coproducteurs. Donc est-ce que c'est une situation courante peut-être pour réaliser un premier film?
Disons que au Mexique et dans les pays qui sont considérés en voie de développement ou tiers monde, on peut souvent aller chercher de l'argent en Europe. De l'argent qui est spécialement pour des pays sans trop d'argent. Donc par exemple, on a de l'argent de la Hollande, Huber Balz Fund. On a de l'argent de la Suisse, du fonds Vision Sud-Est. Puis on a de l'argent du Canada aussi. Mais le gros de l'argent finalement est mexicain. Donc c'est une façon de profiter de ces fonds-là, et ça fait aussi, disons, ce sont des fonds prestigieux aussi, parce qu'il y a peut-être 200 projets qui sont soumis et ils donnent de l'argent à 5 ou 6 projets seulement. Donc c'est une façon aussi de donner confiance au projet. Une fois que tu as Huber Balz, après ils vont faire attention. C'est comme un saut de qualité, disons.
Une légitimité qui est reconnue par ces fonds-là.
Oui, et on a aussi un coproducteur de République Dominicaine. Mais ça, c'est une affaire d'amitié. J'ai des amis là-bas qui m'ont un peu dépanné avec la production.
Alors, juste pour revenir sur le fait que donc, vos trois longs-métrages soient des adaptations de livres, c'est quand même assez intéressant, parce que justement le propre de la littérature, c'est que le lecteur se fabrique ses propres images mentales.
Oui.
Et donc vous, en vous en saisissant pour faire du cinéma, vous allez construire des images.
Oui. Mais aussi, je crois que j'essaye de laisser une certaine liberté aussi au spectateur de cinéma de créer sa propre version de l'histoire. Je crois que c'est des films qui jouent beaucoup sur l'ambiguïté. Par exemple, Yo.
L'image de Yo, qui est un personnage profondément ambigu.
Oui, on sait pas exactement s'il est vraiment retardé mental ou pas. Non, ça dépend un peu de l'expérience de chaque spectateur. À un moment, j'ai été assez influencé par un réalisateur anglais qui s'appelle Peter Watkins et qui critique beaucoup ce qu'il appelle la monoforme à Hollywood et dans des films narratifs. La monoforme, ça veut dire des films qui sont tous tournés de la même façon. C'est le over shoulder, le close-up, le long shot. Il y a vraiment une grammaire qui se répète qui a existé depuis le début du cinéma. Avec Griffith qui a créé ce langage de découpage. Et d'un autre côté, il y avait Eisenstein qui jouait plus avec, avec le montage. Mais par exemple, toutes les séries télé sont filmées exactement pareil. Et il faisait un parallélisme aussi la monoforme, avec la montagne russe. Est-ce qu'on dit ça, le roller coaster, où tous les spectateurs vont avoir pratiquement la même expérience dans un film de ceux-là qui critiquent. Tout le monde va crier au même moment, va pleurer au même moment, va avoir peur au même moment. Et lui, il disait, ça c'est un peu triste parce que ça enlève toute la variété de spectateurs qu'il y a dans la salle. Ça enlève un peu la communication. Il appelle ça une communication fermée, où l'écran dit au spectateur exactement ce qu'il doit sentir à tout moment. Et il dit, donc moi j'essaye de faire une communication ouverte où chaque spectateur va avoir une sensation différente en accord avec sa propre sensibilité. Et donc ça m'a beaucoup travaillé. Et je pense que mes films permettent ça, permettent une expérience vraiment différente selon la sensibilité de chacun des spectateurs.
Alors vous citez Peter Watkins, est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs où le travail ou les réflexions ont pu vous inspirer ?
Au début aussi, maintenant j'essaie de m'en défaire un peu, mais au début j'étais très inspiré aussi par le travail du documentariste hollandais Johan van der Keuken, qui par exemple disait que pour lui c'était important que le spectateur, quand il voyait un film, pense à sa propre respiration. Et ça va un peu du même côté, à l'opposé du cinéma hollywoodien, où il ne faut pas que le spectateur pense à soi-même. Il faut juste qu'il soit amené dans cette histoire narrative et qui décroche pas une seconde de l'écran. Et Johan van der Keuken, au contraire, dit c'est bien que le spectateur parte un peu dans ses pensées et puis quand il dit réfléchisse à sa propre respiration, c'est un peu ça, c'est qu'il pense à soi-même. Et aujourd'hui, dans ce monde tellement inondé d'images, de bruit, etc., le cinéma, la salle de cinéma est une bonne option pour réfléchir, pour être avec soi-même, une espèce de lieu sacré.
Vous avez fait essentiellement des fictions. Est-ce que vous auriez envie de vous tourner vers le documentaire ?
Oui, je j'aime bien cette phrase de Godard qui dit « Est-ce qu'on demandait à Mozart s'il faisait du documentaire ou de la fiction ?» Et il faisait de la musique, c'est tout. Donc moi j'aime bien ça, je pense que je fais du cinéma. Le fait que je travaille jusqu'ici avec des acteurs non professionnels, ça donne un côté très documentaire au film. Je prends ces personnes-là, puis je prends leurs propres expériences de vie et je les fais les partager avec le spectateur. Les lieux où je tourne sont des lieux qui existent. C'est pas tourné en studio. Donc je crois que mes films ont une forte composante documentaire, mais ancrée dans une fiction.
Très bien, mais merci beaucoup d'être venu nous voir, Mathias Meyer.
Merci à vous.
Alors votre film Yo est donc en compétition. Réponse ce soir. On vous souhaite bonne route à ce film.
Merci
beaucoup.
Bonne
route à vous.
kile ma sabu nyuma dunya bejeli
Thank you.